Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur RTL. Comme chaque jour, je suis heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour leur adresser toute ma gratitude. Alex, Céline, Seb et l'horrible Bastien. Heureuse donc de vous retrouver sur cette antenne car ensemble on essaye de diffuser de bonnes ondes. Ce que l'on a réussi à faire hier, on se demandait si l'on n'était pas un petit peu quand même tous ensemble au bord de la crise de nerfs. En ce moment, une émission à retrouver sur les replays sur RTL.fr. RTL.fr où vous pouvez nous voir également. En ce moment même, soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Et de quoi qu'on cause aujourd'hui, ma bonne dame? Eh bien, en avant Guingamp. Vouloir le meilleur pour nos enfants, exiger le meilleur d'eux-mêmes, ça n'est pas la même chose. Les encourager ne veut pas dire non plus leur mettre la pression et pourtant, la frontière est mince. Apprentissage, résultats scolaires, performances sportives et artistiques, maturité, autonomie, compréhension du monde actuel et même de ses enjeux sanitaires. Sommes-nous trop exigeants vis-à-vis de la jeunesse? Respectons-nous son tempo? Devrions-nous réviser nos attentes? Et si on se mettait un instant dans leur propre basket pour mieux les comprendre? On en parle aujourd'hui avec vous, bien sûr, Christelle, qui est déjà en ligne et que l'on va accueillir dans un instant sur cette antenne, mais également Alexandre Lacroix. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je m'entends en écho, c'est fabuleux, j'adore entendre ma voix, mais je préfère entendre celle de mes invités. Vous êtes Alexandre Lacroix, écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Vous êtes président et cofondateur des Mots, c'est une école d'écriture, et auteur de La naissance d'un père aux éditions Alary. À nos côtés, en ligne avec nous, Monique de Kermadec. Bonjour Monique.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous Monique de Kermadec. Vous êtes psychologue et psychanalyste, auteur du Surdoué de l'amour aux éditions Albin Michel. Merci à vous deux d'être là. Alexandre Lacroix, est-ce que, et là je parlais de notre monde actuel et de ses enjeux sanitaires, est-ce qu'aujourd'hui effectivement on en attend trop de nos enfants dans la compréhension déjà de ce qui se passe?
Il me semble que l'un des enjeux décisifs de l'éducation, c'est de donner envie aux enfants d'empêcher le monde de se défaire, en fait de se disloquer. C'est-à-dire qu'on sait bien que au moment de la crise d'adolescence, on a envie à un moment on est habité par des envies de destruction, et ces envies de destruction, ces pulsions de destruction, elles sont chez tout être humain. On a envie de tout envoyer promener. Et au fond, le plus grand enjeu de l'éducation, c'est d'instiller quelque chose, de mettre quelque chose dans le corps, dans le cœur, dans la tête des enfants, qui leur donne envie aussi
de construire,
de venir, de ravauder le monde, de venir à son chevet, de l'aider à ne pas se défaire. Donc là, on traverse une période de test en quelque sorte. C'est-à-dire que si
supplémentaire parce que la jeunesse n'est qu'une période de test, je dirais, non?
La jeunesse n'est qu'une période de test, et à mon sens, nous sommes parents dépositaires de la continuité du monde pendant cette crise auprès de nos enfants. C'est-à-dire que nous devons faire exister le monde, quand bien même le monde va mal ou qu'il est en arrêt, qu'il est confiné, que chacun est chez soi. Nous devons, pour eux, faire exister le monde. Un petit peu comme dans ce film-là, La vie est belle, où c'est comme si, peut-être que c'est un peu un jeu ou un leurre ou une fiction qu'on doit leur proposer, mais on doit, à leurs yeux, et pour qu'ils s'épanouissent en tant qu'enfants, leur indiquer qu'un monde humain existe, qu'il est dehors, qu'ils ne doivent pas en avoir peur, qu'ils vont devoir aller s'y aventurer. Vous voyez, faire exister le monde pour eux, même quand le monde est malade.
Voilà, et La vie est belle, film de Roberto Benigni, effectivement absolument extraordinaire. Monique de Kermadec, aujourd'hui, être petit, comme être d'ailleurs un adolescent, je reste encore dans le contexte actuel et après on en sortira. Leur demander d'affronter effectivement leur propre monde qui se construit en temps réel, à mesure qu'ils avancent dans la vie. Leur demander effectivement de ne pas défaire le monde, comme le disait très justement Alexandre Lacroix, et tout ça en étant dans une privation permanente. C'est-à-dire qu'on demande concrètement à un gamin de continuer sa vie d'enfant dans un monde qui ne peut que piétiner finalement son innocence et son insouciance. On leur demande de continuer à travailler, de suivre les cours, tout en portant des masques et en étant privé du lien social. Est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est difficile pour la jeunesse?
Je dirais que les réactions sont différentes en fonction des âges. Parce que vous avez quand même, quand un enfant est très jeune et que dans les faits, il se retrouve plus souvent avec ses parents, il peut apprécier la situation et n'a pas l'impression qu'il est tellement privé. Oui, il a besoin d'amour. Oui, il a besoin de contexte pour se développer en dehors de la famille. Mais il sera peut-être moins privé que nos adolescents et les grands adolescents qui, eux, avaient déjà des habitudes de vie, avaient des références données par leur groupe d'amis, et qu'ils perdent comme ça à distance. Donc, je pense que les adolescents sont peut-être plus, je dirais, plus frustrés et plus en difficulté aujourd'hui que les jeunes enfants.
Oui, oui, bien sûr. En fait, dès lors où nos enfants nous échappent un peu et sortent et construisent leur propre vie sociale, effectivement, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. En tout cas, moi, je ne les envie pas, hein, parce que on leur demande de continuer, de continuer leur vie et de répondre à nos attentes, Alexandre Lacroix, tout en étant contraint. Sans cesse. Hier, on a fait une émission en se demandant si on n'était pas tous au bord de la crise de nerfs. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Moi, j'ai des enfants et j'ai un ado de 16 ans. Je le plains. Alors, et je révise presque mes attentes, entre guillemets, aujourd'hui. Si tant est que j'en ai, on va en parler. Mais je fais montre d'indulgence aujourd'hui, peut-être encore davantage.
Bon, et j'ai cette expérience, moi, à travers... Donc, j'ai 5 enfants qui
parce que c'est vrai que vous âges, y êtes allé franco de port.
Oui, avec des âges qui s'étalent entre 20 ans et 3 ans. Donc, j'ai avec les enfants, on peut presque raconter ce qui est en train de se passer. Je parlais de La Vie est belle comme d'une fable. Il y a un abominable Corona Minus qui est là. Il est invisible. C'est notre ennemi. C'est un monstre. Il est partout. On sait pas quel... Mais en fait, il est pas très malin et on va l'avoir. C'est pas très grave.
Vous pouvez le dire aux petits.
Oui, voilà. C'est la lutte contre l'abominable Corona Minus. Voilà, on peut, disons, créer la fiction d'un monde qui va bien. Effectivement, les petits sont encore beaucoup au foyer. On peut aussi parler de ce qu'on vit comme d'une guerre, d'un jeu, d'une lutte, mais quelque chose qui n'est pas complètement terrifiant. En tout cas, on peut essayer de ne pas leur inoculer notre propre anxiété.
Mais les plus grands.
Alors, les plus grands. Là, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une occasion, c'est-à-dire d'une occasion de s'interroger sur le sens de la vie. Moi, je pense là à mon fils de 20 ans, mais une occasion d'avoir de longues traversées aussi avec du silence, de la solitude, c'est vrai, de la privation, mais de faire le point, par exemple de s'interroger sur le métier qu'il veut exercer, il est en train de s'interroger sur le fait, est-ce qu'il veut vivre à la campagne ou à la ville, par exemple, une question importante qui se pose, à mon avis, à la
on
lumière de cette crise.
On va traiter bientôt dans cette émission.
Et donc, en fait, ça donne un côté un peu grave à la crise d'adolescence, c'est moins explosif, moins festif que ça devrait l'être. Mais en même temps, il y a une occasion de se poser les questions fondamentales, la question du sens de la vie. Donc vous voyez, j'arrive à maintenir une sorte de semblant d'optimisme sur le front de 20 ans et de 3 ans.
Voilà, bon, voilà. Écoutez, on va essayer de diffuser cet optimisme de toute façon, puisque c'est notre but chaque jour sur cette antenne en direct. On va accueillir dans un instant Christelle, peut-être sortir évidemment du contexte actuel, mais se demander tout simplement si en tant que parents, on n'a pas des ambitions qui pourraient être d'ailleurs les nôtres pour eux. On va se demander si on ne leur met pas trop la pression. Christelle va nous raconter la vie de la petite Maggie. Elle a 11 ans. Elle aura 11 ans le 4 février prochain. Bref, elle a quasiment 11 ans, quoi. Elle a 10 ans 3 quarts. A tout de suite en direct sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Est-ce qu'on a trop d'exigences vis-à-vis de nos enfants? Est-ce qu'on attend trop d'eux? On en parle avec nos invités. Alexandre Lacroix, qui est écrivain et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, avec Monique de Kermadec en ligne avec nous, qui est psychologue et psychanalyste. On accueille tout de suite Christelle sur cette antenne. Elle habite à Douai. Bonjour Christelle.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue Christelle. Vous avez 42 ans et vous êtes la maman d'une jeune fille qui aura 11 ans, je le disais, le 4 février prochain et qui s'appelle Maggie.
C'est ça.
Voilà. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes une maman exigeante?
Je sais pas. J'ai quelques exigences, mais est-ce que je suis exigeante de manière générale? Je suis juste.
Ah. Alors, c'est très relatif, hein. C'est très personnel, hein, la notion de justesse et peut-être de justice. Justement, Christelle, qu'est-ce que vous attendez de Maggie? Où se situent vos plus grandes attentes?
Alors, on va être classique, on va être dans le domaine scolaire.
D'accord.
J'exige d'elle qu'elle ait une moyenne de 15 minimum. Alors, c'est pas juste pour dire d'avoir une moyenne de 15, c'est juste pour dire que le fait d'avoir cette moyenne-là lui offrira beaucoup plus de choix dans quelques années. Mmh. J'ai essayé de lui expliquer que déjà sans diplôme, c'est compliqué. Même avec diplôme, c'est compliqué, donc encore sans diplôme, ça le sera encore plus. Et donc, c'est une exigence en accord avec l'autre maman, évidemment. Donc, on exige d'elle qu'elle ait 15 de moyenne générale.
Elle est en quelle classe aujourd'hui ?
En sixième.
D'accord, ok.
Elle a un an d'avance en plus.
Ok, donc, d'accord.
Et voilà, et donc, il arrive qu'il y ait des matières dans lesquelles elle est passée moyenne. D'ailleurs, je viens de voir la physique-chimie, oui, c'est pas très fameux, mais ça arrive qu'il y ait des accidents et... Et à côté de ça, par contre, elle a le libre choix de gérer la façon dont elle va remonter sa moyenne, donc avec toute notre aide et notre soutien, évidemment.
D'accord. Quand vous dites que ce n'est pas fameux en physique-chimie, là, c'est combien ?
Là, c'est à moins de 11. D'accord. J'en avais la nouvelle aujourd'hui, donc ça ne me ravit pas, mais ce n'est pas grave. C'est pas, j'en fais pas tout un, on n'en fait pas tout un état, en fait. On se dit, effectivement, la moyenne, s'il faut qu'elle soit de 15, là, il y a une matière qui ne pêche pas, donc on va lui donner un coup de main. C'est mon épouse qui est plus physique-chimie, donc c'est elle qui va lui donner un coup de main, peut-être apprendre plus ou une façon d'apprendre les leçons de manière différente.
D'accord.
Mais il faut remonter.
D'accord, ok. Vous allez en parler ce soir avec Maggie.
Exactement. Je viens d'en parler déjà avec elle. Là.
D'accord. Et ça s'est passé comment ?
Alors, elle m'a dit que c'était des interros surprises, donc ouais. Ce que je comprends. Donc, je lui ai expliqué, bah, écoute, pour ne pas avoir de surprise, il faut apprendre. Voilà.
D'accord.
Donc, elle a entendu. Elle n'est pas très ravie, mais...
Ouais, elle fait la tête ? Elle boude ?
Pas vraiment, non. C'est que elle boude un petit peu, mais elle doit le faire de toute façon. Donc, elle n'a pas le choix.
D'accord.
C'est la seule exigence qu'on a de ce côté-là. On est un peu souple, beaucoup plus souple sur d'autres choses. Donc,
sur quelle chose êtes-vous souple ?
Sur les activités extrascolaires. Elle a libre choix de faire ce qu'elle veut. On exige d'elle un sport, juste pour une question de santé. Pour lui faire comprendre que de toute façon elle devra faire du sport toute sa vie pour être en bonne santé. Donc après elle a le choix du sport, peu importe lequel.
Qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle fait du kenpo karaté.
D'accord.
Okay. C'est self-défense.
D'accord. Déjà à 11 ans. Et c'est son choix ça ou c'est vous qui l'avez ouverte à cette activité ?
Ah non, c'est son choix en
D'accord.
fait. On est allé à un
c'est
salon
marrant,
de sport et elle a eu le loisir de tester tous les sports.
Ok.
Et puis elle a découvert ça et elle adore. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous attendez aussi d'elle qu'elle ait un apprentissage artistique ?
Alors elle a fait du piano pendant quelques années parce qu'elle m'avait vu faire. Elle a décidé d'arrêter cette année, donc j'étais un peu déçue. On en a bien discuté, j'ai voulu comprendre ses motivations, et puis je me suis dit, ok, on va arrêter, on va faire une année, on va dire sabbatique, et puis si elle veut reprendre, elle reprendra, si elle ne reprend pas, ben, elle ne reprendra pas. Je ne la forcerai pas.
D'accord, et est-ce que vous la forcerez, entre guillemets, à avoir une activité artistique ?
Ah,
je sais pas, si tu ne fais pas de piano, apprends le dessin, le sport et les écoles. Et l'école.
Le sport, c'est pas une exigence. J'essaie de lui faire comprendre c'est un mode de vie en fait. Que c'est quelque chose qui est bon pour sa santé. C'est pas. J'estime pas que c'est une exigence en fait. C'est quelque chose qui est bon pour elle. Donc, sachant que voilà, nous on a des problèmes. On a eu des problèmes de poids, de non-activité physique et voilà. J'ai pas envie que ça lui arrive. Donc, et puis même sans ce problème de poids, c'est important d'avoir une activité physique.
Alors, on va se retrouver dans un instant, Christelle, parce qu'on parle de Maggie, là, sous le prisme de ses résultats scolaires, de son activité sportive et tout. Mais après, vous allez nous décrire. Elle est comment, Maggie ? Est-ce que c'est une jeune fille de 11 ans qui aime TikTok, qui a des potes, qui... Voilà. Enfin, bon, bref, vous allez nous décrire votre fille dans un instant.
D'accord.
Et puis, on va poursuivre notre conversation avec Alexandre Lacroix et Monique de Kermadec. À tout de suite en direct sur RTL.
RTL. On est fait pour s'entendre. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Catherine, elle nous écoute, elle nous a écrit sur Facebook. C'est l'énorme différence entre les enfants français et les enfants des pays scandinaves, puisque l'on s'intéresse à eux jusqu'à 15h30 sur RTL. Et puis surtout, à notre comportement en tant que parents. Est-ce que l'on en attend trop d'eux ? Est-ce qu'on exige trop d'eux ? En France, on leur demande d'être les meilleurs, nous écrit Catherine. Dans les pays scandinaves, on leur demande de faire de leur mieux. Est-ce que vous imaginez bien la différence de pression. Christelle, vous attendez quoi de Maggie ? Qu'elle fasse le meilleur ou qu'elle soit la meilleure ou qu'elle donne le meilleur d'elle-même ? Ou qu'elle fasse de son mieux ?
Alors je me dis que si elle donne le meilleur d'elle-même, elle sera la meilleure.
D'accord. Et qu'elle fasse de son mieux ?
Bien sûr, mais elle le fait déjà. C'est quelqu'un qui est déjà très exigeante envers elle-même. Mais ça... ce n'est pas nous qui lui avons inculqué inconsciemment. Hein. C'est quelqu'un qui est très exigeante envers elle-même et c'est pour ça que... Alors, tout à l'heure, je parlais de moyenne. On exigeait 15 de moyenne. Alors, je ne sais pas si dans la mémoire collective, c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais Maggie est une enfant qui avait l'habitude, qui a toujours eu l'habitude d'avoir 18 ou 19 de moyenne.
D'accord.
Donc, c'est pour ça qu'on a, revu... Enfin, on a
vous avez révisé.
On a dit, d'accord, voilà, au minimum, tu as 15. Si tu as plus, tant mieux.
D'accord.
Mais voilà.
Dites-moi, comment vous pourriez nous la décrire, cette petite Maggie? Elle est comment?
Elle est pleine de vie, elle est pleine d'humour, elle est intelligente, elle est drôle, elle est très extravertie, expansive. Après, on doit la décrire, elle est surdouée également. Donc,
Elle est TikTok?
Pardon ?
Est-ce qu'elle est TikTok ? Pardon, mais...
Non.
D'accord.
Non. Elle est téléphone, mais elle n'est pas TikTok.
D'accord, ok. Elle aime la musique, elle danse, elle fait l'andouille.
Elle aime la musique, elle danse, elle aime bien les jeux vidéo.
D'accord.
Très peu, elle aime ce téléphone et ses amis beaucoup. C'est surtout le téléphone pour être en lien avec ses amis.
Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard ?
Aucune idée.
D'accord. Et vous, vous aimeriez qu'elle sache déjà ?
Pas du tout.
D'accord.
Là, enfin, a priori, elle partira pas du tout sur nos traces et c'est tant mieux. C'est quelque chose, c'est Maggie, quoi. C'est elle. Et tant mieux qu'elle ne soit pas un bout de nous.
D'accord. C'est un petit bout de nous, nos enfants, mais qui en fait, effectivement, ne nous appartient pas du tout. On s'y retrouve parfois, et puis parfois, ils nous échappent. Je vais me tourner vers Monique de Kermadec, puisque je sais, Monique, que vous allez devoir nous quitter à 15h. Qu'est-ce que vous entendez, là, dans le témoignage de Christelle ? J'y entends, et Christelle, n'en prenez pas ombrage, j'y entends des attentes, des exigences, et une terrible bonne volonté, évidemment, de maman. Mais c'est vrai que vous nous le dites, hein, j'exige oui. 15 minimum, j'exige une activité sportive parce que c'est bon pour la santé. Monique de Kermadec.
Oui, je trouvais que Christelle était très attentive au développement de sa fille dans différents registres, hein, que ce soit intellectuel, sportif, artistique. Mais j'étais frappée, et c'est ce que Catherine a souligné, c'est l'impact culturel qui fait qu'en France, les parents souvent attendent tout au travers des résultats scolaires. Et j'aimerais suggérer aux parents qu'il est important que l'enfant ne s'évalue pas uniquement au travers de cette échelle de notes. Nous sommes autre chose qu'un 14 sur 20 ou un 18 sur 20. Et faire de son mieux est certainement moins contraignant que d'être parmi les meilleurs. Nous savons, et là, l'expérience nous montre que les premiers en classe ne sont pas nécessairement ceux qui réussissent le plus brillamment. Mais néanmoins, nous gardons en France cette attention fixée, figée sur les notes.
C'est une réalité, Alexandre Lacroix, ça.
Alors, c'est lié au modèle français, très marqué par la méritocratie républicaine, mais je pourrais même tenter une explication plus large en termes de comparaison culturelle quand on parlait des pays scandinaves. Il y a quand même une opposition entre la conception de l'éducation dans le monde catholique et dans le monde protestant. Et on peut dire, pour dire vite, dans le monde catholique, ce qui est demandé, c'est un respect des rites extérieurs. On n'a pas besoin d'avoir vraiment une foi interne très forte. En tout cas, on doit respecter, disons, le message, la lecture des textes par le Vatican. On est soumis à l'autorité du pape. Dans le monde protestant, tout l'enjeu de l'éducation, et qui est très relié à la foi protestante, c'est le fait de pouvoir accéder à une forme de lumière intérieure. Hein. C'est ce qu'on appelle la Bildung, l'éducation en Allemagne. Et c'est vrai que dans les débats sur l'éducation auxquels participent même les ministres en Allemagne, on parle beaucoup de cette lumière intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, indifféremment du fait que je suis capable de respecter des règles formelles qui me permettent d'avoir un 18, un 19, parce que ça, c'est des règles. Je remplis des exercices, je me conforme à des protocoles, ça c'est catholique, mais est-ce que je suis capable d'être en contact avec mon génie singulier, avec mon démon, avec ma lumière intérieure, est-ce que l'éducation m'y amène, cette lumière intérieure, je vais la trouver avec des expériences, souvent je vais la trouver avec des expériences, mais des expériences fortes.
Et parmi expériences, pardon, mais même l'expérience de l'échec...
Je pense à la nature, moi, c'est-à-dire que dans la tradition scandinave ou allemande, c'est l'expérience d'aller dans les bois.
L'expérimentation, quoi.
Pas que l'école, oui. C'est de se confronter au monde, à la nature, aux autres. Alors... Voilà, j'ai l'impression que si on est seulement dans cette logique républicaine, méritocratique, catholique, de respect des protocoles et des rituels, On n'a qu'une partie de l'éducation.
D'ailleurs, Christelle, vous nous avez dit ce que j'attends et ce que j'exige aussi de Meggy, c'est on ne peut plus classique. Vous l'avez dit vous-même. On ne peut plus traditionnel.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est vous qui me l'avez dit. J'ai dit, qu'est-ce que vous attendez de Meggy ? Vous m'avez dit, bah, rien de plus traditionnel, des bonnes notes, une activité sportive. Donc, est-ce que vous êtes dans l'application aussi de l'éducation que vous avez reçue vous-même ? Qui ne serait qu'un héritage, finalement, du système éducatif et de nos attentes.
Et je me vois mal m'en écarter pour pas marginaliser ma fille, en fait.
Je comprends. Je comprends sans comprendre.
D'après ce que je viens d'entendre, je comprends que ce soit voilà, que c'est l'héritage de l'histoire, etc. Mais je me vois mal dire à ma fille, bah, écoute, tu fais de ton mieux, c'est pas grave, les notes, on s'en fiche un petit peu, si t'as 7, 8, enfin... À un moment donné, je serai responsable de sa marginalisation. En tout cas, c'est la société qui veut ça, c'est pas moi.
Moi, je vous kiffe. Finalement. Vous restez avec nous, d'accord? Vous restez avec nous. Il y a Audrey qui vous écoute. Il y a Estelle qui va nous rejoindre aussi sur cette antenne. On va faire un tour par l'information puisque le bon élève Olivier Bois vient de rentrer dans ce studio. Je remercie Monique de Kermadec pour cette demi-heure passée en notre compagnie, Monique. Merci de nous avoir éclairé de la sorte avec vos points de vue.
À très bientôt, Flavie.
Je vous dis à bientôt sur RTL. Je vous embrasse, Monique. Place à l'info sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Bon, alors on parle de nos enfants aujourd'hui. Est-ce qu'on est trop exigeant vis-à-vis de la jeunesse ? Alexandre Lacroix reste avec nous. Il est notre invité jusqu'à 15h30. Il est directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, que je vous conseille, évidemment. Et puis auteur de La naissance d'un père aux éditions Alary, puisqu'il en a 5 d'enfants à la maison, entre 20 et 3 ans. Alexandre Lacroix, vous avez entendu Christelle il y a un instant, hein, avec ses exigences. Ses attentes de maman vis-à-vis de sa fille Meggy qui a 11 ans et qui, en vous écoutant, a dit oui, mais moi j'applique finalement le système éducatif et les exigences que l'on a eues vis-à-vis de moi, de la part de mes parents. J'applique ça comme un héritage parce que je ne veux pas marginaliser ma fille. Mais est-ce que ça n'est pas là, cette fameuse lumière dont vous parliez ? Christelle, vous êtes toujours à notre écoute, hein, et il n'y a pas de. On réfléchit ensemble, mais est-ce que ça n'est pas là, justement, dans la différence, que s'allume quelque chose chez nos enfants ?
Ben, je crois qu'il y a, oui, bien sûr, c'est dans la différence que s'allume quelque chose. Je crois aussi que on projette sur l'école la capacité de délivrer des diplômes qui vont, une fois pour toutes, décider d'un destin professionnel ou d'un destin économique qui va être positif. Alors, il y a quand même, les cartes sont un peu rebattues dans la vie professionnelle. Il y a des gens diplômés qui font pas grand chose de leur diplôme. Inversement, il y a des gens qui sont passés par l'apprentissage professionnel et qui se révèlent. En France, on a, à cause de cette tradition de méritocratie, une sorte de phobie de cet apprentissage professionnel qui n'est pas du tout mal vu ni en Allemagne ni dans les pays scandinaves, qui n'est pas vu du tout comme une faute. Et quand vous circulez dans le tissu économique français, comme c'est pas mal mon cas, je me déplace quand même beaucoup dans les entreprises, que vous rencontrez des dirigeants d'entreprises, vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui se sont faits par des voies qui ne sont pas ces voies de l'école officielle
conventionnelle.
Et qu'au contraire, je dirais que l'école telle qu'elle est conçue en France aurait presque comme terrain d'atterrissage ou comme finalité de faire des professeurs. Enfin, c'est-à-dire que si on est vraiment excellent sur le terrain scolaire, il y aura presque quelque chose qui consiste à perpétuer le modèle en passant une agrégation et en devenant à son tour un prof et donc à ne jamais sortir du système scolaire. Moi, je pense que le système scolaire est une prise sur le monde extrêmement adaptée pour certains, pas pour d'autres.
Voilà. Alors, ça, c'est peut-être adapté, effectivement, pour Meggy. Ah oui, on ne le remet pas en cause, hein, évidemment, Christelle. Hein. On va accueillir Audrey, si vous le voulez bien, Christelle, sur cette antenne. Audrey, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, Audrey. Vous avez deux garçons, 7 et 5 ans. Aaron et Nils, qui en a 5. Vous entendiez Christelle. Est-ce que vous êtes dans la même, est-ce que vous empruntez le même chemin, tout simplement, que Christelle quant à l'éducation et aux attentes vis-à-vis de vos enfants?
Alors, non, pas du tout. Déjà pour deux raisons. Parce que moi, je suis l'exemple parfait inverse de tout ce que vient de dire.
C'est-à-dire
que je respecte beaucoup, bien sûr,
c'est l'esprit de cette émission. Tout le monde se respecte et tous les avis sont intéressants.
En fait, par rapport aux exigences scolaires, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas respecté l'exigence scolaire. Ça veut dire que j'ai été virée de mon lycée parce que je n'étais pas assez scolaire. Derrière, en fait, j'ai quand même fait une classe prépa une école de commerce. J'ai été directrice financière de grosses entreprises sur Marseille. J'ai très bien réussi dans la finance. Et derrière, j'ai tout lâché au bout de 10 ans pour être entrepreneur. Et aujourd'hui, voilà, je suis à mon compte, ça fonctionne très bien et je suis très heureuse de ça. Et en fait, j'ai vu dans mes études, dans mes professions, etc., beaucoup de gens très scolaires ne pas du tout réussir.
Donc Audrey, j'imagine que cette expérience qui est la vôtre vous a nourri finalement aussi votre vision des choses et vos projections quant à vos enfants.
Exactement, et pour moi, on exige beaucoup trop de nos enfants.
Ouais.
Justement par rapport aux exigences scolaires, par rapport aux exigences de plein de choses en fait. Moi ce que je veux d'eux, c'est qu'ils soient juste heureux en fait. Et ça fera tout le reste en fait.
Ce qui, je pense, c'est le cas aussi de Christelle. Hein. Christelle veut que Maggie soit heureuse avant
bien
tout.
Bien sûr.
On est bien d'accord.
L'un n'empêche pas l'autre.
Voilà, on est d'accord. Audrey, est-ce que vos enfants ont suivi un parcours scolaire classique?
Non. En fait, ils sont allés dans une école Montessori.
Montessori.
quand ils étaient petits. Mmh. Et Aaron, en fait, le grand, était un enfant avant d'aller à l'école qui était très 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 timide. Il a fait un an dans le cursus classique où il se sentait pas à sa place. Il était très 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 effacé. Il était scolaire, mais justement entre guillemets trop scolaire. On sentait qu'il était pas bien dans ses baskets. Il était très effacé. Quand il est rentré dans l'école Montessori, il s'est révélé. C'est un enfant qui maintenant a beaucoup confiance en lui, qui est très bien dans ses baskets. Par contre, Nice, l'école Montessori ne lui a pas convenu. Nice a besoin de plus de cadres. Et on a déménagé à la campagne, donc maintenant ils sont tous les deux dans une école publique. Bon alors, c'est une école publique un peu à la Charles Ingalls, parce que du coup on est dans un petit village, hein, donc c'est pas exactement pareil, c'est dans une
On va couper
ville.
Du bois.
on est pas loin. Mais en tout cas, du coup, ils ont une très grande bienveillance, donc c'est vrai que c'est pas comparable au système classique dans les grandes villes, mais Nice, ça lui correspond mieux, et il a pris confiance en lui maintenant. Donc, chaque système correspond à chaque enfant. Il n'y a pas un système parfait, en fait.
Ouais, en fait, on est dans le sur-mesure et dans une forme d'accompagnement. Hein, c'est ce que l'on entend, Audrey. Et j'imagine qu'avec chacun de vos enfants, vous avez des attentes dont on va parler dans un instant, en fonction, évidemment, de leur personnalité. Et on comprend aussi que Christelle a ces attentes-là parce qu'elle sent chez Maggie une appétence aussi pour l'apprentissage. C'est bien ce que j'ai compris, Christelle, aussi, à travers ce que vous nous disiez. Christelle, on va vous laisser, là, parce qu'on vous a pris beaucoup de temps. Mais je vous remercie.
Ouais, vraiment, hein.
d'avoir été avec nous. J'ai été un petit peu exigeante à votre endroit aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous embrasserez Maggie et votre compagne. À bientôt sur RTL. Audrey, vous restez avec nous dans un instant. C'est Estelle aussi qui va se joindre à notre conversation. À tout de suite.
RTL. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Alors Audrey, vous nous avez parlé de Aaron et de Nils. Alexandre Lacroix vous écoute, évidemment. On est dans un accompagnement, je dirais, sur mesure. C'est-à-dire qu'on sent que Audrey connaît ses enfants. Elle a fait connaissance avec ses enfants avant d'appliquer, je dirais, un système éducatif et des exigences qui, on en parle aujourd'hui, on s'est dit, est-ce qu'on en attend trop de nos enfants? On se rend compte qu'on parle principalement de l'école, donc on va y rester. Donc des exigences scolaires.
C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire est-ce qu'on attend de nos enfants qu'ils parviennent à se conformer à un cadre scolaire, à s'adapter à un cadre scolaire? Ça peut leur être très naturel, mais ça peut leur être incroyablement difficile. En tout cas, est-ce qu'on attend d'eux qu'ils rejoignent ce cadre d'apprentissage? Ou alors, est-ce qu'on est prêt à imaginer une sorte d'individualisation de l'éducation et des parcours? Moi, je trouve ça assez intéressant, la piste de l'individualisation. C'est-à-dire que ça consiste, en fait, à ne pas essayer de former un citoyen qui aurait des connaissances généralistes dans tous les domaines à l'égal des autres, mais à essayer de détecter des appétences, des désirs et des talents chez l'enfant, et je pense que les enfants sont talentueux, pas toujours dans les mêmes domaines, les détecter et de les renforcer là où ils ont du en quelque sorte de l'appétit, du désir et du potentiel. Et peut-être que ça ne va pas vers l'école, mais ou vers l'école traditionnelle en tout cas. Peut-être qu'il faut envisager des pédagogies alternatives comme Audrey avec ses
enfants.
Et donc, effectivement, cette individualisation des parcours, cette attention aux talents que porte chacun, l'école comme institution, l'école française, ne le fait pas, parce qu'on a ce modèle du collège unique, d'un enseignement national complètement rodé, etc.
Tout est uniformisé.
Donc c'est peut-être aux parents de le faire.
Voilà, et c'est vrai que c'est prendre un risque. Hein, on en parlait il y a un instant en antenne. En tant que parent, parfois c'est flippant d'accompagner nos enfants dans un chemin qui n'est pas un chemin conventionnel. C'est courir un risque et on a le sentiment de le faire courir à nos enfants aussi.
Non, parce que parce que moi le risque je le vois aussi dans le fait de se retrouver avec ce que j'appelle les stars de l'entraînement. Mmh. Enfin, les stars de l'entraînement, c'est ceux qui sont très bons, qui ont manifesté des signes extérieurs d'être bons à l'école et qui vont pas donner grand chose. Vous savez qu'en France, une personne sur deux qui rentre à l'université, on ressort sans aucun diplôme.
Ouais.
C'est un temps perdu absolument colossal. C'est un gâchis monstrueux qui est produit par cette pression des parents à avoir des bonnes notes et à faire des études supérieures. Il aurait bien mieux valu, plutôt que se retrouver sans diplôme à 19, 20, 21 ans, s'engager dans une voie professionnalisante beaucoup plus tôt.
Bien sûr.
En fonction de ses talents et de ses appétits.
Bien sûr.
Il aurait bien mieux valu suivre une autre voie. Donc cette normalisation, cette tentative de normalisation, elle se brise les dents sur le réel. Ça ne fonctionne pas et ça produit de la détresse et du chômage.
On accueille Estelle sur cette antenne. Audrey, vous restez avec nous puisque le discours d'Estelle va forcément vous intéresser. Vous avez 36 ans, vous êtes prof d'histoire géo justement, Estelle. Soyez la bienvenue.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Eh bien, voilà une prof qui s'interroge et qui se demande si elle n'est pas trop exigeante. Vous êtes très à cheval sur certaines choses et vous êtes plus souple sur d'autres.
Ben oui, c'est cette complexité d'avoir la double casquette prof et maman.
Tu m'étonnes.
Et c'est de pas remettre cette pression que peut avoir le système scolaire sur mes enfants, sur mes filles, quoi.
Et oui, parce que comment faites-vous ? Est-ce que vous transgressez quelque part ? Est-ce que de temps en temps, vous désolidarisez du message que renvoie l'éducation nationale en tant que prof pour justement essayer de vous affranchir, je dirais, dans l'éducation de vos enfants ?
Oui, comme je l'écrivais, j'essaye d'être exigeante sur l'orthographe, la grammaire, parce que pour la communication, c'est important. Après, j'exige pas la performance partout pour mes filles. Mmh. Elles peuvent avoir des points forts dans certains domaines et des points faibles dans l'autre. Mmh. Ce que je veux, c'est qu'elles aient essayé, qu'elles aient compris là où ça marchait pas. Et puis après, effectivement, elles utiliseront leurs points forts pour faire autre chose derrière.
Est-ce que vous avez le sentiment, Estelle, qu'on en attend trop des élèves aujourd'hui, vous en tant que prof, si on met juste de côté vos deux filles et votre cas personnel, est-ce que vous êtes plutôt une prof qui, en conseil de classe, va encourager les efforts d'un élève peut-être qui rencontre certaines difficultés au lieu de l'enfoncer ?
Oui, et on est beaucoup comme ça. Je vais défendre aussi mes collègues. Moi, je veux plus cette course à la note non plus. J'exige pas que mes élèves aient tous 20 sur 20. Mais ce que je veux, c'est qu'ils aient essayé, qu'ils aient compris les notions qu'on a étudiées pour que ça devienne moins abstrait pour eux. Mm-hmm. Et puis qu'ils aient essayé.
Voilà. L'idée de l'expérience.
Oui, et je rejoins votre intervenant derrière. Enfin, les études pour les études derrière.
Alexandre, oui.
Oui, Alexandre, ouais. Ça a peu de sens. Si un élève se sent bien, qui a envie d'être manuel, qu'il parte en mécanique, même s'il a 18 de moyenne, quoi.
Et nous, vraiment, on défend depuis des années les filières pro, hein, qui sont aujourd'hui, qui n'ont plus forcément l'image qu'elles avaient, je dirais, à notre époque, mais qui sont des filières extrêmement intéressantes où, effectivement, les jeunes peuvent éprouver déjà un métier plutôt que d'être uniquement dans de la théorie. Merci, Audrey, d'avoir été en ligne avec nous. Une bise à Aaron et à Nils. Vous savez que, Audrey, moi, le jour où mes enfants ont eu un zéro pointé, ce que j'expliquais à Alexandre Lacroix, on a fêté ça. Parce que je les voyais tellement malheureux d'avoir eu un zéro que je leur ai dit on va au resto. Voilà, parce que l'échec fait partie aussi quelque part de l'apprentissage. Audrey, je vous remercie. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Merci beaucoup aussi Estelle de nous avoir éclairés. Je vous embrasse mesdames. À tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Fatou, qui est fan de notre émission, nous écoute depuis le Danemark. Elle nous écrit, j'avoue reconnaître une grande différence par rapport à la France. Ici déjà, les enfants ne redoublent pas. Si l'enfant a de quelconque problème dans certaines matières, l'élève aura de l'aide avec une pédago-professeur. On demande, j'adore cette phrase, on demande à l'enfant de rester enfant le plus longtemps possible.
Et les enfants, d'ailleurs, ne commencent l'école qu'à 6 ans. Et vous, vos enfants, Alexandre Macron, ne sont pas allés en maternelle.
Voilà. Ouais. Et bientôt, ce sera plus possible en France. La mainmise du système républicain est telle que l'obligation de scolarisation a été décidée.
Mais parce que moi, j'ai vraiment confiance dans cet enfant qu'on a en nous, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est celui-ci aussi, c'est l'enfant qu'on a en nous qui va nous donner l'audace, l'idée de la transgression et le goût de la liberté.
Bon, il y a l'école très tôt, à 3, 4, 5 ans, c'est un peu normalisateur si on peut éviter un petit peu cette normalisation aussi précoce.
Non, mais c'est conserver l'enfance, rester un enfant le plus longtemps possible. Ça n'enlève pas la maturité. Moi, je pense que, adultes et enfants ne sont pas complètement antinomiques. Mais enfin bon. Bonjour Natacha. Natacha est-elle là ?
Oui, je suis là.
Bonjour Natacha. Bonjour. Je vous prie de m'excuser par avance, on a très peu de temps. Mais vous avez deux enfants, Charles qui a 15 ans, Antoine qui a 19 ans. Quel joli prénom. Alors justement, quand ils ont cet âge-là, c'est l'âge où il faut apprendre à les lâcher. Est-ce que c'est pas ça l'éducation, justement ? C'est d'être, de leur donner ces bases pour pouvoir à un moment donné décoller et ne plus être là.
Voilà. Et effectivement, c'est tout à fait mes principes d'éducation et la façon dont j'ai élevé mes enfants, c'est les mettre en avant et leur laisser beaucoup de liberté, et le libre arbitre a énormément de place dans mon éducation.
Est-ce que par moment ils vous ont fait peur?
Oui. Bah oui, bien sûr, mais quand on ouvre la porte des possibles, évidemment, il faut s'attendre à avoir parfois des réactions auxquelles on s'attend pas. Sur lesquels on va douter, on peut s'opposer également, mais toujours dans la discussion. C'est difficile.
Oui, mais parce qu'ils nous font peur. Mais je trouve ça génial, mais ça fait partie de l'apprentissage.
C'est ce que j'allais dire, c'est extraordinaire qu'ils nous fassent peur. Et
exactement.
Quelque part, je trouve que je me dis qu'ils sont épanouis dès l'instant où ils osent proposer des choses et s'opposer à des choses acquises ou des autoroutes toutes prévues.
Oui. Donc vous avez confiance en vos enfants, malgré la peur qu'ils peuvent susciter chez vous parfois.
La peur est là, bien sûr.
Oui, je la connais.
On a toujours peur pour
les cœur.
Enfants.
Oui, on a toujours.
J'ai confiance. Je me dis que j'ai fait en sorte de leur donner confiance.
Alexandre Lacroix. Oui. Voilà une jolie conclusion, non ?
Bah oui, je rejoins ce témoignage. Moi, je pense que l'éducation est une éducation à la liberté. On doit conduire un enfant qui est mineur à l'état de majorité, c'est-à-dire au moment où on va le lâcher, où il va vivre sa vie à la première personne du singulier. C'est vrai que mon roman de 500 pages sur l'éducation et les enfants se termine par une scène où je suis avec mon grand-fils qui vient d'être majeur, il a 18 ans, il est dans une école d'art. Et je me dis, mais finalement, je sais pas en quoi consiste le fait de réaliser la condition humaine. En tout cas, je ne peux pas lui prescrire la manière dont il va le faire. Maintenant, c'est à lui de le faire, de vivre sa vie à la première personne et non pas de réaliser mes désirs. Et donc, l'éducation, c'est ce cheminement qui conduit d'un enfant qui nous est complètement, qui est fragile et qui a besoin de nous en permanence, des biberons, des réveils, des attentions, à cette liberté.
Natacha, je vous avais dit c'était rapide, mais qu'est-ce que c'était bien de terminer avec vous. Je vous embrasse.
C'est pas grave, c'était un plaisir.
Mais j'espère qu'on se reparlera prochainement
également
sur cette antenne. Merci à vous. Alexandre Lacroix, Philosophie Magazine, je suis fan. Et puis La naissance d'un père, c'est votre dernier ouvrage aux éditions Alary. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
À bientôt. Allez, merci à tous. Prenez bien soin de vous. Rendez-vous demain dès 14h30 en direct sur RTL pour un grand entretien qui va tous vous toucher. À demain.
RTL. On est fait pour s'entendre.
Salut, c'est Vincent Perrault.
RTL Pop Ciné.
Je vous attends tous les dimanches dès 14h pour RTL Pop Ciné. Des jeux, des interviews, des chansons de films pour tout savoir de l'actualité cinéma.
RTL Pop Ciné, présenté par Vincent Perrault, dès maintenant en replay sur RTL.fr.